Soyez les bienvenus, vous dont l'œil étincelle, pour entendre une histoire encore. Approchez, je vous dirai celle d'un personnage qui vagabonde hors saison. Une nouvelle écrite et lue par Bernard Bot. La ville s'étirait, grise et mélancolique, sous des nuages lourds de pluie, abandonnée aux regards vides d'innombrables villas, aussi tristes et désemparées que des fleurs défraîchies oubliées dans un vase. L'océan battait sa romance inutile et sourde pour un public limité, mais attentif, moi. Le sentiment d'être seul, absolument seul au monde, dans cette ville où tout évoquait la villégiature et l'hédonisme, me remplissait d'une griserie silencieuse et je me sentais malheureux jusqu'à l'ivresse. Délicieusement malheureux, envoûté par la rumeur rythmée et lente de la houle, par le balai des nuages et par les battements de mon cœur. Elle m'avait laissé son adresse, griffonnée sur un bout de papier jaunâtre et sale, et m'avait dit que je pouvais venir la voir quand je voulais. Non, pas la peine de prévenir entre nous. Pourquoi s'embarrasser de telles convenances ? La nuit que nous avions passée ensemble me poussait à la croire, à lui donner le diable sans confession. Qui ne l'aurait pas fait ? Et puis, j'adorais les plages de l'océan, surtout hors saison. 22 rue de Brest, Anna, disait le ridicule bout de papier plié en 8 dans ma main. 22 rue de Brest, Anna, hurlait mon cœur palpitant. Le plan de la ville ne signalait pas la présence d'une rue de Brest, mais ce genre de choses ne décourage pas un loser de ma trempe, amoureux poids lourd dans la catégorie des illusions. Et j'avais donc fait, pour la revoir, 800 kilomètres, dans une deux chevaux hors d'âge, sous un déluge continu, escorté par des meutes hurlantes de poids lourds. Ces difficultés me laissaient indifférent et même, d'une certaine façon, rendaient mon odyssée plus chevaleresque et plus noble. Anna, rue de Brest. De quel plus beau sésame pouvais-je rêver ? Mais mon rêve pataugeait désormais dans des flaques glaciales et, après avoir sillonné pendant des heures des quartiers presque déserts, en me jetant sur les rares êtres vivants que je rencontrais pour leur demander où je pouvais trouver Anna, 22 rue de Brest, je commençais à désespérer. Pourtant, elle existait, et je pouvais le prouver, oui, grâce à ce papier jaune serré dans ma main qui avait étreint la sienne au plus haut sommet des frissons de l'amour. Mais personne n'avait jamais entendu parler de Brest. Cette ville-là était sans doute trop loin vers le nord, et il aurait été ridicule de donner son nom à une rue ici, dans ce coin de paradis où il ne pleuvait jamais, ou presque. Comme rien n'est plus difficile que de demeurer calme et déterminé quand on est trempé de la tête aux pieds, je résolus de prendre une chambre dans une modeste pension du bord de mer, laquelle chambre, minuscule et surchauffée, s'avérait parfaite pour faire sécher mes vêtements et réfléchir tranquille. Une fois installé, entièrement nu, sur le lit qui occupait tout l'espace, aidé en cela par une bouteille de whisky que j'avais arrachée à une épicerie encore ouverte, je pus constater que de la chaleur, de la vie, et même quelques idées structurées, commençaient à circuler dans diverses parties de mon corps.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day.
Après avoir rejeté, mais l'ai-je même envisagé avec sérieux? L'hypothèse que la belle Anna m'avait posé un lapin géant, j'élaborais plusieurs théories pour n'en retenir qu'une seule. Il y avait une erreur dans l'adresse. Il me fallait dès lors procéder par élimination, ce qui m'amena à la conclusion brillantissime que l'erreur ne pouvait se trouver que dans le nom de la rue. Fébrile, je me jetai sur une de ces applications surnaturelles que l'on trimballe désormais partout, sous forme numérique, et qui répondent sans sourciller à vos questions les plus grotesques. Quelques siècles plus tôt, et sur d'autres rivages, un amant égaré aurait réveillé un djinn et l'aurait supplié de le conduire sur ses épaules puissantes vers le palais de sa belle. Mais les djinns sont plutôt soupaulés. Ils font preuve d'une patience limitée et je ne me sentais pas le courage de repartir, nu, sous la pluie, pour trouver sur la plage une hypothétique jarre abandonnée. Les voies numériques étaient plus sûres, plus accessibles et plus confortables que les voies magiques, et cela se confirma quand, au bout de quelques dizaines de minutes, après avoir tapé, à la place de Brest, quelques noms tels que Brett, Brett, Bresse ou Bresse, je finis par tomber sur une rue de Braise, qui se situait à quelques minutes à peine de la pension où je me trouvais. Le prince évoquait un peu plus haut celui qui s'adresse au djinn comme à de vieux copains de régiment, serait parti illico vers sa princesse. Mais une longue expérience de l'échec amoureux m'incita à profiter du bonheur de l'espérance. Souvent, d'une histoire de cœur, c'est la seule chose qui demeure. Et, comme l'a dit un philosophe français du XXe siècle, Raymond Domenech, je crois, le meilleur moment, en amour, c'est quand on monte les escaliers. Je repris donc deux rasettes de whisky, puis, au milieu des fumerolles qui montaient de mes habits mouillés, semblable à un poussa oublié dans un hammam, je m'endormis. Quoique mon sommeil fût traversé par d'innombrables rêves érotiques, ou peut-être grâce à ça, je dormis très bien et me réveillai rempli d'une ardeur surnaturelle. La question de savoir à quelle heure je devais retrouver Anna fut vite tranchée. 10 heures. C'était exactement comme si ce rendez-vous était inscrit sur le marbre de nos devis depuis des années. Sur le chemin qui conduisait rue de Braise, je trouvais un fleuriste ouvert, ce que j'interprétais dans ma fébrilité comme un nouveau signe du destin, et le boutiquier, un vieil homme ridé et bègue, me conseilla d'acheter des lys, parce que les lys, bredouilla-t-il, ça ne déçoit jamais. Mais j'optai pour des roses, rouges, bien sûr, car je n'ai jamais pu offrir à une femme autre chose que des roses rouges, et je n'ai jamais compris pourquoi. Au moment où mon index droit appuya sur la sonnette du 22 rue de Braise, une villa morose qui ressemblait à ses innombrables sœurs essaimées dans la ville, je me trouvais dans des conditions psychologiques qui échappaient à toute analyse médicale. Et, sans jamais avoir su ce qu'était un état premier ou un état troisième, je suis immédiatement ce qu'était un état second. Mon corps était traversé de courants thermiques surprenants et nouveaux. Mains moites, pieds glacés, torse brûlant, bouche sèche, mes genoux tremblaient, mais une douloureuse raideur bloquait tout mon dos. De temps en temps, mon cerveau envoyait un message clair à mes membres, mais ceux-ci semblaient être devenus sourds et réagissaient d'une façon imprévisible et désordonnée. Malgré tout, dans un ultime assaut de lucidité, j'appuyais sur la sonnette. Il y a des moments qui comptent dans une vie. On ne sait rien encore des événements, infimes ou énormes, qui les suivront, mais on sait déjà, à l'heure où on les vit, qu'ils seront uniques. Quand elle ouvrit la porte et qu'elle vit les fleurs dans ma main, elle hocha la tête avec une expression étrangement résignée et m'adressa un sourire empreint de lassitude. « Elle doit être fatiguée. Elle a mal dormi. J'arrive trop tôt, » pensai-je. Et je lui dis tout cela à toute vitesse et j'ajoutai, plein d'espoir, après lui avoir presque jeté les fleurs dans les mains. « Tu te souviens de moi, n'est-ce pas ? Paris, le 6 mai, rue Monsieur le Prince. » Elle hocha la tête avec la même expression résignée qui me surprit et me troubla. « Tu... » bredouillai-je, « tu veux que je parte ?» Et j'imaginais aussitôt un mari caché dans une pièce de la villa, armé d'un couteau ou d'un balai, prêt à bondir sur moi et à me chasser. « Non, répondit-elle avec distance, puisque vous... Enfin, puisque tu es là, parlons un peu. »« Parlez !» hurlèrent en même temps toutes les parties de mon corps qui rêvaient inlassablement à elle depuis des semaines. « Parlez ! Mais de quoi, bon sang ?» Mais ces hurlements, bien sûr, demeurèrent intérieurs et, à demi groggy, mais décidé à me battre, je la suivis dans un salon où elle m'invita à m'asseoir sur un canapé rose. Elle posa les fleurs sur une commode de style contemporain suédois, tout à fait quelconque, et qui ne ressemblait pas aux souvenirs que je gardais d'elle. Puis me demanda si je voulais boire quelque chose. J'acceptai. Et avant que je puisse ajouter quoi que ce soit, elle me dit qu'elle avait une boisson parfaite pour cette heure de la journée et, sur ces mots, s'éclipsa dans la cuisine. Je profitai de ces instants de solitude pour lancer mes cinq sens à l'assaut de sa maison afin d'y récolter tous les indices, même les plus ténus, même les plus incertains, qui me permettraient de la connaître un peu mieux. Au bout de 2 ou 3 minutes d'observation soutenue, elle revint et j'avais eu assez de temps pour arriver à cette première certitude, essentielle pour moi, vu les circonstances. Le seul être vivant qui partageait sa vie était un poisson dont le balai silencieux et névrotique inondait la pièce d'ondes négatives. Pas d'odeur de chien mouillé, pas de relents de litière pour félin de compagnie, pas de soquettes de sport masculines abandonnées au hasard du salon. En un mot, la voie était libre, même si je ne devais pas sous-estimer les pouvoirs secrets du mélancolique goupil du bocal. De l'eau chaude, avec du citron. Voilà ce que je peux vous proposer. Je bois ça tous les matins. Ça me réussit. Elle dut percevoir mon étonnement et ma déception, que je ne pus cacher tout à fait, et, pour cela sans doute, se sentit obligée de rajouter, en guise de justification ou d'excuse, « L'eau est très, très chaude, bouillante, à vrai dire. Faites attention. » Je balbutiai un remerciement maladroit, puis un silence embarrassé s'installa, sans doute à cause de l'influence néfaste du poisson. Elle me regardait avec un mélange de curiosité et de distance, comme elle aurait regardé un bibelot qui aurait enrichi une de ses collections. Je ne savais que dire. Et tandis que mon cerveau battait une campagne désertée, je m'enfonçais, lentement et sûrement, dans le ridicule. Elle vint à mon secours en demandant « Ainsi donc, rue Monsieur le Prince, le 6 mai. Oui, vous vous souvenez ? Bien sûr. Je connais cette rue. C'est très joli. » Ce n'était pas vraiment la réponse que j'attendais, mais ces quelques mots m'avaient un peu libéré et, rempli d'une ardeur nouvelle, je dis « Et il faisait si beau ce jour-là, la nuit était aussi douce qu'en plein été. Ah bon ? Le 6 mai, il faisait beau. Vous parlez du 6 mai de cette année, n'est-ce pas ? Eh bien, mais... oui. Cette année ? J'aurais sans doute dû éclater de rire tant la question et la réponse étaient ridicules, mais cela me fut impossible. J'étais cette fois complètement groggy. L'eau bouillante qu'elle m'avait servie répandait d'agréables odeurs de miel et de citron. Je résolus de m'y noyer, mais je ne fis que me brûler. Au terme de cet échange pathétique, j'eus la preuve scientifique que le ridicule ne tuait personne et je me demandais comment me sortir de là quand, contre toute attente, elle se mit à me poser de nombreuses questions sur moi, sur ma vie, sur ce que j'aimais faire. Elle voulut savoir si j'appréciais la musique classique, Ravel en particulier, et aussi les promenades sur la plage. Et l'Inde, est-ce que je connaissais l'Inde ? Ce bavardage n'était pas désagréable en lui-même, mais il me mettait mal à l'aise car il balançait entre le papotage auquel on s'adonne avec une vieille tante et le sérieux technique lié à un entretien d'embauche. Disons-le avec franchise, j'attendais un peu plus de passion. Quand elle eut épuisé ce qui semblait être sa liste de questions type, elle m'adressa un regard triste, mais professionnel, et me dit avec calme que je ne convenais pas, et qu'elle était désolée pour moi. Dire cela revenait à s'acharner sur un adversaire déjà tombé au sol et incapable de la moindre réaction. Je réussis pourtant à dire « Mais, pouvez-vous au moins m'expliquer ?» Et je sortis le papier jaune et sale plié en 8 sur lequel il était écrit « 22 rue de Brest, Anna ». Je le lui tendis. Elle le saisit avec un demi-sourire, puis se dirigea vers la commode où elle avait abandonné les fleurs. Elle y prit une sorte de coffret un peu kitsch, dans le plus pur style des années 50, sur lequel trônait une sirène faite d'une multitude de minuscules coquillages collés les uns aux autres, puis elle revint vers moi. Elle ouvrit la boîte et m'en montra le contenu. Il y avait déjà là, pour autant que je puisse en juger, une 20aine de carrés jaunes identiques aux miens. Elle y jeta celui que je venais de lui donner, puis elle referma le couvercle d'un coup sec et me dit, sur un ton qui se voulait rassurant, « Vous voyez, vous n'êtes pas le premier. » Je hochai la tête, incapable de répondre. « Et vous ne serez pas le dernier, je le crains. » Cette nouvelle affirmation, je ne sais pas pourquoi, eut le don de me mettre hors de moi. « Pas le dernier !» criai-je. « Pas le dernier !» Mais vous allez vous expliquer, enfin ! Ma brusque colère n'eut pas plus d'effet sur elle que la brise de la Méditerranée sur le rocher de Gibraltar.
The long night through. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Being so untrue. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head. While you never shed a tear. I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Just to prove you do. Come on and cry me a river, cry me a river. I cried a river over you.
Elle attendit que je retrouve mes esprits, puis me dit, calmement et posément, comme si elle s'était adressée à un enfant capricieux mais prévisible, « Tout ça est de la faute de ma sœur. »«
Votre sœur ?»«
Oui, ma sœur jumelle. Elle veut faire mon bonheur, voyez-vous, alors elle essaye des hommes pour moi,
Oui, elle essaye. J'ai cherché d'autres mots, mais celui-là est celui qui convient le mieux, en définitive. En définitive. Et ça suffit comme explication. Bien sûr, dans la mesure où il n'y en a pas d'autres. Que pouvais-je répondre ? L'étrangeté de la situation m'anesthésiait. Pourtant, me souvenant de la rue Monsieur le Prince, j'osais cette question. Et votre sœur est-elle mariée ? Oui, et elle a 4 enfants. Elle est très heureuse. En fait, elle fait tout ça parce qu'elle s'en veut. Elle m'a, comment dire, shippé ? Ouais, shippé mon fiancé. Elle l'a épousé et depuis, je vis toute seule. Alors, elle s'en veut. Et vous ? Vous lui en voulez ? Non, pas du tout. C'est comme ça. Je suis très heureuse pour elle, mais elle ne veut pas l'admettre. Elle veut absolument me trouver un mari. C'est drôle. Les hommes qu'elle m'envoie se ressemblent tous. Ah bon ? Oui, tous très fleurs bleues et roses rouges, si vous voyez ce que je veux dire. Remplis de doutes et d'amour. Ils sont mignons, mais comme des enfants, pas comme des hommes. Je comprends. Alors, ce sera plus simple pour vous d'accepter tout ça. Je suis navré. Sincèrement navré. J'espère que vous trouverez un jour celle que vous recherchez, mais ce n'est pas moi, je vous l'assure. Elle remit le bouquet de roses rouges entre mes mains, me ramena vers la porte et je crois que, sur le court trajet qui menait du salon à l'entrée, le poisson rouge émergea de sa torpeur et me fit un clin d'œil goguenard. Dehors, il pleuvait. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'y attendais. Tandis que des trombes d'eau s'abattaient sur la route, je me dis qu'il en allait de certains cœurs comme de certaines villes de bord de mer. Ils en sont réduits, à jamais, à vivre hors saison.
Bad.
like I love him. Nobody should. I got it bad.